Dans la vie, il y a deux possibilités, subir ou diriger sa vie. En écoutant BTLV, vous avez choisi votre camp. Ici, pas de censure, pas de pub. Seulement une autre information que celle délivrée à longueur de journée par l'ensemble des médias. Bob vous dit toute la vérité, tous les soirs, 21h minuit, sur BTLV.
Coucou, on est là. Salut, c'est Yves Cara. Salut Mathieu.
Salut
Yves.
Salut. Je l'ai pris par surprise, il était encore dans son micro.
Là, j'étais dans mes boutons, là.
Tenue d'été donc pour BTLV, on diffuse cette émission le 31 juillet 2015, donc on est encore en tenue d'été, vous êtes encore peut-être en train de vous prélasser sur la plage, ou que ce soit dans le monde d'ailleurs, ou alors vous allez y aller, ou alors vous n'avez pas de vacances du tout si vous nous écoutez des États-Unis parce que c'est différent. Enfin bref, voilà, c'est BTLV tout le temps, n'importe où, à n'importe quel moment. Et on va retrouver pour passer une heure ensemble quelqu'un que vous connaissez bien. Ah, il y a les cigales.
Ah bah oui,
alors, ouais,
bah,
les cigales, ouais. Avec les cigales, c'est juste merveilleux, quoi. Ça passe du cocon à une cigale.
C'est dingue.
C'est vraiment une merveille de la nature, tiens. Faudrait qu'on va faire une spéciale cigale. Voilà, on va faire une spéciale cigale sur BTLV. Pour l'instant, une spéciale Québec.
Yves Cara sur BTLV.
Avec, et c'est une grande première pour moi, Richard.
Le mystère et l'inexpliqué sont ses terrains de jeu depuis 40 ans. Tous les mois, Richard Glenn est sur BTLV.
Richard Glenn, salut.
Ben bonjour Yves, écoute, je t'entends, je t'écoute souvent et j'apprécie beaucoup ta manière d'approcher les gens avec un doigté et aussi une certaine compétence dans tous ces domaines ésotériques, insolites, ufologiques et tout le reste, j'aime ça. Alors c'est notre première tous les deux, oui.
Oui, c'est une, bah écoute, merci déjà, ça commence bien, quelques compliments et je te remercie. C'est vrai que, bah c'est vrai, quand on fait quelque chose qu'on aime, je pense que ça s'entend, en tout cas je l'espère, je le fais toujours avec beaucoup de plaisir. Et quand on m'a dit, bah tiens, Bob pourra pas être là, et c'est toi qui vas enregistrer avec Richard Glenn, je me suis dit, génial, ce sera une grande première, allons-y, c'est un bonheur.
Oui, et tu viens de parler de cocoon, on est au milieu de l'été, et ici, chez moi, à Mont-Saint-Hilaire, j'ai une piscine cocoon. Je l'ai appelée comme ça à cause du film, le fameux film, attends un peu, comment ça s'appelait, là, cocoon,
ben, cocoon. Cocoon, c'était cocoon, d'ailleurs, ouais, tout à fait.
Ben oui, c'est ça, un, deux, le retour, en tout cas, et donc, c'est une piscine sous un dôme. Et en dessous, j'ai utilisé des techniques de Wilhelm Reich pour produire de l'orgone. Et avec, on sait que pour avoir de l'orgone, ça prend du métal, du végétal, du métal, du végétal, des couches successives de métal et de végétal qui entourent la piscine.
Uh-huh.
De cette façon, quand on est dans la piscine, on est énergisé. On n'ira pas jusqu'à faire comme dans Cocoon, là, envoyer nos chakras là, sur le cœur de la dulcinée. Ou...
ouais. Ah, c'est bien, ça. T'as construit ta piscine comme ça. C'est cool, ça.
Oui, c'est original et j'ai des gens qui, je dirais pas que ça fait des miracles, là, hein, on va pas jusque là, mais quand même, il y a des gens qui viennent se réénergiser ici, qui souffrent de certains maux, l'arthrite, rhumatoïde, entre autres et tout, et ça aide beaucoup. Il y a des gens qui ont de la misère avec la vue, la vision, et ça les réénergise au point où ils sentent qu'il y a eu un changement intéressant. C'est pas ouvert au grand public, là, je le dis.
Tu vas avoir une file d'attente de quelques centaines de personnes. On peut se baigner. C'est comme à Lourdes, après, tu sais, dans la piscine. Tout le monde va vouloir se baigner dans la piscine de Richard Glenn.
Ouais. Ben, Mathieu est venu au Québec il y a peu de temps. Là,
ouais, avec Bob, ouais, tout à fait.
Mais puis, il n'y a pas eu l'occasion de venir au Mont-Saint-Hilaire.
Mais non.
Mais peut-être que l'an prochain, écoute, on prépare déjà le congrès 601 et on n'y va pas de main morte. On a lancé l'invitation à Jacques Vallée qui semble intéressé à venir faire la moitié du chemin. Lui partirait de Californie pour arriver à Montréal et Philippe Guillemin partirait de France puis viendrait à Montréal. Alors, à mi-chemin de part et d'autre, ces deux grands personnages en ufologie, Guillemin, il est plus lui... dans le domaine de la physique, mais il s'intéresse beaucoup à l'ufologie, et puis ça lui a permis aussi de participer à ce fameux collectif extraordinaire, là, OVNI au pluriel, OVNI et conscience. Hein.
Oui, OVNI et conscience, c'est un bouquin d'ailleurs. Ils ont écrit un super bouquin, OVNI et conscience, à plusieurs cerveaux, et c'est vraiment
exactement.
Bien, ouais, tout à fait.
Oui, le collectif là, dirigé par Fabrice Bonvin.
Oui, tout à fait, on l'a eu à l'antenne déjà, ouais. On a déjà fait une émission là-dessus. C'est vrai qu'on pourrait faire une émission sur ce livre avec chacun des intervenants de ce livre, tellement ils ont apporté, et tellement c'est une grande première de réunir tant de domaines différents d'ailleurs.
Hein. Exactement, et ce dont on n'entend à peu près pas parler, c'est que la conclusion de ce livre-là, alors que la liste des intervenants, bon, ben, t'as le psychologue, l'ingénieur, le physicien... Il y a plusieurs personnes qui sont, comme tu dis, participantes, mais la conclusion est faite par Philippe Solal,
oui.
Qui est lui-même un philosophe. Et ça me rappelle qu'au Congrès UFO 501, Mathieu doit s'en souvenir, nous avions à l'ouverture et à la fermeture Alain Niala, qui est un philosophe ici au Québec. Ouais. Alors, on voit qu'on est sur la même longueur d'onde. Quand on traite de l'ufologie, il faut avoir une ouverture d'esprit, un peu comme un philosophe. Tu sais, on se dégage un peu des tauliboulons, puis on s'en va un peu au-delà même de la psychologie. La philosophie fait un peu le tour de toutes ces sciences-là, puis essaie de marier tout ça, ce qui est constructif, ce qui est valable.
Tout à fait, ouais. C'est vrai que de plus en plus, on le voit depuis quelques mois, le phénomène OVNI se marie très bien effectivement avec la philosophie et avec la spiritualité aussi. On s'aperçoit souvent que lorsqu'il y a observation d'OVNI, il y a une certaine spiritualité qui naît dans la personne qui a observé et qui sent qu'il y a autre chose. Donc tout ça est mélangé effectivement, ouais. Ouais.
Au début de mes émissions ésotérisme expérimental ici au Québec, je partais souvent avec la caméra, l'équipe technique. On faisait des reportages sur le terrain, des gens qui rapportaient avoir vu des observations. J'ai interviewé une certaine Madame Desjardins qui était à Longueuil sur la rive sud de Montréal et qui avait vu un ovni dans la nuit à 2h le matin atterrir dans un champ vacant derrière sa maison. Et on est allé sur place avec des instruments de mesure. Entre autres, on voyait qu'il y avait 20 tonnes de pression sous chacun des trois pattes où l'OVNI avait atterri dans le champ. Et ça avait fait une compression du sol jusqu'à 20 tonnes de pression pour obtenir cette compression-là.
Ah ouais.
Sur chacune des trois pattes. Donc, on sent que l'OVNI était très solide, était très matériel. Hein, on ne pourrait pas échapper à ça. Et Mme Desjardins nous contait... Ben mon fils, je l'ai réveillé. Et puis, il était trop tard. L'OVNI était parti quand elle est allée parce qu'elle était médusée par l'objet qui était lumineux à 2-3 heures le matin. Mm-hmm. Et il est demeuré là assez longtemps dans le champ. Et tout d'un coup, il est parti. Elle a couru chercher son fils. Il était trop tard. Et j'ai retrouvé Mme Desjardins 2 ans après l'événement qu'elle m'avait décrit en détail pour me dire... qu'elle se souvient que la Sainte Vierge lui avait apparu à ce moment-là.
Ah ouais.
Philippe, Yves, c'est exactement l'idée, c'est que c'est de la spiritualité qui s'imprègne dans le mental, dans le cerveau de l'être humain. Lorsqu'il est face à un phénomène que le cerveau ne peut pas gérer, ben il va l'envoyer dans le domaine de la spiritualité ou de l'imaginaire. C'est la folle du logique, l'imagination.
Ouais, c'est mais ça. Tu l'as dit effectivement. Le cerveau est face à quelque chose qu'il peut pas gérer. Donc ça doit ouvrir des portes du possible. Et à ce moment-là, il y a d'autres champs de possibles dans le cerveau qui s'ouvrent. Ouais, tout à fait.
Oui, et quand on a affaire à quelque chose qu'on ne peut pas gérer, ben on va peut-être croire que c'est de l'absolu. Et évidemment, la religion, la spiritualité, ça touche toujours à l'absolu, l'alpha et l'oméga. Tu sais. Ouais. Alors aujourd'hui, Yves, je te propose de faire une drôle de démarche en ufologie parce que inspiré par justement le livre OVNI et conscience, puis je le répète, là, c'est un fondement, j'ai à peu près 300 livres ufologiques ici à la maison et je le place dans ma bibliothèque à un des endroits chéris de mes meilleurs livres que je considère comme des piliers. Et je sais qu'ils ont un contact avec Jacques Vallée régulièrement
tout à fait,
et
ils
préparent une suite à tout ça, hein.
Ouais,
alors,
oui.
Probablement qu'au congrès UFO 601 de l'an prochain au mois de mai, à Montréal, je recevrai des intervenants de ce livre-là et on parlera de la suite.
Oui, tout à fait. C'est sûr que si tu as Jacques Vallée, Philippe Guimond, déjà, c'est deux grands noms, ce sera assez énorme.
Oui, exact. Et on va leur donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Ouais.
Jacques Vallée, on ne lui donne pas une heure, on va lui donner peut-être un 2-3 heures. À sa guise, on lui ouvre le tapis rouge, on lui déroule le tapis rouge en lui disant, Jacques Vallée, écoutez, vous n'êtes pas un homme de spectacle et vous avez une belle occasion de faire le pont entre l'Amérique et l'Europe. Et Philippe Guillemin, qui est en contact avec lui, ben, il aimerait bien être en contact physiquement avec lui. C'est beau, là, en Skype, tout ça, là.
Ben ouais, l'invitation est lancée au travers de BTLV, allons-y, puis t'as dû le faire aussi par d'autres voies. Donc de toute façon, on y sera l'année prochaine à tes côtés, évidemment.
Ben oui, ce sera le troisième rendez-vous ufologique au Québec, le dernier de trois.
Ouais, c'est
et
beau, ça
finira en apothéose avec Jacques Vallée, Philippe Guillemin. Comme tu dis, on entre dans le domaine de la spiritualité et c'est là qu'on situe souvent l'ésotérisme Mon truc, depuis 40 ans, s'appelle ésotérisme expérimental. Mm-hmm. J'ai pas voulu appeler ça l'ufologie expérimentale ou la parapsychologie. C'est vraiment de l'ésotérisme. Et l'ésotérisme, c'est un peu comme de la philosophie. Ça touche à tout. Ça s'intéresse à tout. Ça va chercher, on dit éso, qui veut dire de l'intérieur. Mm-hmm. Exo, c'est l'extérieur, tu sais. Alors, donc, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de faire le parallèle entre... on est en été... on a fait des jardins, hein, on s'est cultivé un petit potager ou on est peut-être à la campagne avec un plus grand jardin. Et le phénomène extraterrestre, on dit souvent, c'est comme des veilleurs, des jardiniers qui observent l'évolution de l'humanité sur la surface de la Terre. Alors ces êtres-là agissent probablement un peu de la même manière qu'un bon jardinier agit dans son jardin. C'est-à-dire qu'il laisse les plantes pousser. Les extraterrestres nous laissent vivre. Mais ils interviennent de manière subtile pour une plante, recevoir une douche d'eau à un moment donné parce qu'on sent que ça fait 2-3 jours qu'il pleut pas. Le jardinier va arroser son jardin alors qu'il n'y a pas de nuages. Les plantes sont habituées de voir le soleil se couvrir par les nuages et tout d'un coup, il se met à pleuvoir, ils comprennent. Mais tout d'un coup, s'il fait un plein soleil et que l'eau leur tombe dessus, ça demande qu'est-ce qui se passe. C'est un phénomène étrange. Ils vont dire, qu'un, c'est une intervention mystérieuse parce que le jardinier, pour eux, qui vivent à un rythme très, très, très lent, ben, le temps qu'il vient, il arrose, il repasse, ça peine comme nous quand on voit, on le voit pas l'OVNI, il vient de passer.
D'accord.
Il était là, mais avec une caméra, on peut le figer dans la vitesse de l'obturation de la caméra.
En fait, c'est est-ce que la Terre est organisée comme un jardin par des extraterrestres, en fait? C'est l'idée.
Ben, qu'est-ce que tu en penses de l'idée?
Qu'est-ce que je pense de cette idée d'être comme
moi,
une...
Je ne veux pas arriver en disant que c'est la vérité. Là. Je veux être sur un terrain de discussion et de réflexion. Alors, Yves Carra, oui, ton opinion là-dessus?
Écoute, j'avais pas vraiment réfléchi à ça. L'idée ne me plaît pas, déjà, à la base, parce qu'être observé comme ça, être comme une petite plante, comme une petite fourmi dans un jardin, voilà, ça ne flatte pas l'ego d'être humain et de terrien que je dois avoir quelque part. Mais j'attends tes arguments et peut-être que je changerai d'avis après, mais je me dis attends, pourquoi pas?
Oui,
je suis
d'accord,
ouvert.
D'accord. Alors écoute, d'abord, quand on veut faire un potager, un jardin, on va penser à un potager, d'accord? Ça, mm-hmm. c'est plus à la portée de tout le monde. Là. Ça peut être aussi un jardin sur la galerie. Il y a des gens qui savent maintenant faire des jardins à étage, qu'on appelle un jardin vertical au lieu d'horizontal.
Mm-hmm.
Ils mettent des vases un au-dessus des autres et puis t'arroses seulement celui du sommet. Et l'eau va traverser le premier et va couler dans le deuxième et va couler dans le troisième. Et puis finalement, tous les vases vont avoir reçu leur portion d'eau.
Mm-hmm.
Alors, on se choisit donc une bonne terre. Et qui dit choisir une bonne terre, on comprend que le mot terre, pour nous, c'est un peu en anglais, on va dire « earth » pour dire la terre ou « ground » pour dire la terre, le sol. La terre, la planète, s'appelle terre.
Mmh, ouais, vous avez deux mots bien distincts pour déterminer la chose différente, ouais, effectivement.
Ouais. Ouais, c'est ça. Quand on va sur la Lune, on dit allunir. Quand on va aller sur Mars, on va dire atterrir ou on va dire amassir.
C'est vrai, ouais. À Vénusir, ouais. C'est pas joli non plus.
Ouais, tu sais, c'est ça. Hein. Fait que le mot Terre sert à plein de choses. Alors oui, on va donc se choisir une bonne planète. Les extraterrestres ont choisi la planète Terre parce que c'était... la biosphère était excellente pour l'évolution de la vie. Et quand on va dire que la Terre, bon, il y a eu un créateur qui est venu en 6 jours et le 7e, il se reposa, exactement comme un jardinier qui va travailler sa terre au départ, ensuite qui va voir à l'eau, à la lumière. La lumière et la chaleur, ça c'est donné par le soleil. Et puis ensuite l'eau, l'air, et puis il va semer. Il va semer des graines, et puis à différentes étapes, les graines vont grandir, vont pousser. Alors, c'est un peu comme la création de la vie sur Terre en 6 jours. Et le 7e, ben, le jardinier se reposa. On est à l'époque du jardinier qui se repose.
Mm-hmm.
C'est la raison pour laquelle ces êtres n'interviennent pas. C'est pas leur période d'intervenir. Ils nous laissent croître. Mais tu sais qu'un des rôles étranges d'un jardinier qui aime les plantes, c'est d'aller éliminer certaines plantes indésirables et de choisir aussi les plantes qu'il va conserver. Moi-même, je plante au printemps toujours beaucoup trop de tomates, de plantes tomates.
Mm-hmm.
Parce que je sais qu'il y en a qui sont chétifs, qu'on dirait qu'ils ne grandissent pas, je ne sais pas s'ils ont des problèmes génétiques. Et à un certain moment, je suis le jardinier qui entre dans mon potager pour arracher certains plants de tomates pour laisser la place aux autres qui sont vigoureux.
D'accord, une sorte de sélection darwinienne, quoi. aider un petit peu par la main, quoi.
Ouais, ben c'est ça. Alors, une intervention des extraterrestres qui, dans l'histoire de l'humanité, viennent à l'occasion faire des choix. On a entendu parler de l'histoire de Noé, mais l'histoire de Noé, de la Bible, on le retrouve dans toutes les traditions très, très anciennes. On n'a qu'à lire Velikovsky pour se rendre compte qu'il a fait le pont, lui, entre tous les textes anciens pour voir que, oui, il y a eu des êtres qui ont été épargnés d'un déluge. Il y a eu des faits historiques qui rapportent que la planète aurait basculé, et on pense que bientôt, il y aura encore une bascule de la planète. Là. On voit bien que le magnétisme terrestre a beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué. On va perdre le nord à un moment donné. Je sais que juste à Miami, ils sont obligés de changer le numéro des pistes d'atterrissage sur l'aéroport principal de Miami.
Ah bon?
Régulièrement, parce que une piste porte toujours le numéro qui correspond à l'angle par rapport au pôle nord. Et ils changent le chiffre. Moi, ça fait trois fois qu'ils changent le chiffre. Alors, je me dis, si eux le font, il y en a d'autres qui le font peut-être qu'on n'entend pas parler ou ils devraient le changer puis ils changent pas. Mais
d'accord, pour s'adapter à l'orientation, enfin là, au pôle nord, ils changent le numéro de la piste pour que.
Oui, ils changent le numéro de la piste.
D'accord.
Tout ce qu'on se dit présentement, Yves, je sais pas si t'es un habitué de notre méthode. Avec Bob, je le fais déjà depuis quelques années, lorsqu'on faisait nos émissions ensemble, il y a un complément surprenant qui va suivre en même temps que l'émission est diffusée,
oui.
Le 31 juillet. Là. Mm. En même temps, Gilles Surprenant, qui est un peu mon Mathieu chez nous, ben lui, il va ajouter des éléments textuels ou des images pour permettre au public de se rendre compte que tout ce que j'avance est appuyé par des données qui sont officielles.
Oui.
Alors, si des fois ça a l'air un peu farfelu ce que je dis, mon travail avec mes recherchistes, c'est de toujours aller chercher, on appelle ça ésotérisme expérimental, c'est que, oui, on expérimente dans le sens où on va toucher à des pistes que d'autres vont pas encore toucher, ou il faut quand même avoir l'esprit ouvert, et avec Internet, c'est très, très difficile. C'est notre meilleur ami et notre pire ennemi, hein. Internet, c'est toujours comme ça.
Je suis d'accord.
C'est-à-dire, ben oui, hein. Même pour le domaine de la production, regarde, il y a moins de gens qui viennent à mes conférences.
Ah ouais, c'est ça.
La raison est simple, c'est qu'ils disent on a tout sur Internet. Même quand je vais faire venir Jacques Vallée, Solal ou bien non Guillemin, les gens vont dire oui, mais on les a entendus en conférence sur Internet. Pas payer pour aller les écouter encore. On perd un peu le contact humain, on perd le contact physique, on se dit l'information. Puis le pire, c'est que ces gens-là, comme Guillemin, ben, ils vont nous dire que le phénomène d'OVNI est passé de l'étau Liboulon, qu'on voit considérer en physique comme les particules, le côté matériel. Comme je te parlais tantôt de Mme Desjardins, pour elle, l'OVNI avait laissé des traces au sol, on avait pu mesurer la pression sur le sol. Donc, on est passé des l'étau Liboulon, de la matière. Ensuite, on a commencé à considérer le côté des champs, les champs magnétiques. On sent que l'OVNI dégage peut-être aussi pulsations d'ultraviolets ou des micro-ondes pulsées. Mm-hmm. Alors, ils se déplaceraient peut-être ou ils dégageraient. Et c'est pour ça que souvent, sur des appareils photo, on prend une photographie qu'on voit. On voit l'OVNI avec les yeux, on le prend en photo, il n'y a rien sur la photo.
Mm-hmm.
Et alors, on a découvert que c'est parce qu'il y a des micro-ondes pulsées qui le font comme disparaître, si tu veux, par les champs. Et ensuite, on en arrive aujourd'hui à parler, avec le fameux livre « OVNI et conscience ». J'en fais beaucoup l'annonce, parce que je considère que tout le monde qui s'intéresse à l'ufologie devrait aller chercher ce livre-là,
ouais, ça, « OVNI et conscience ». Ouais. C'est un livre en référence, oui, effectivement, je crois. Hein. C'est une belle synthèse, une première avec cette transversalité des différents domaines, oui, tout à fait.
Exactement, oui. Et ils arrivent à dire aujourd'hui que après les particules, les champs, on arrive maintenant à les data, les informations, les données. Un peu comme ils comparent souvent à un jeu d'ordinateur. Là. Ils parlent de sims comme les sims, les jeux de simulation, là, où tu crées ton avatar, tu crées ton décor, tu crées ton personnage avec ses particularités, ses compétences, et puis son rôle social, puis tu crées des aventures et des événements. C'est vraiment entré de... On est parti de la matière très, 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 très concrète pour s'en aller vers ce qu'il y a de plus, comme tu disais, spirituel.
Mm-hmm.
Bon, alors, notre jardinier, donc, a choisi la terre, a choisi le lieu pour qu'il y ait du soleil, d'ensoleillement, de l'eau et de l'air de bonne qualité. Évidemment, quand on est en pleine ville, je ne sais pas Paris comment c'est, le smog ou la pollution, est-ce que c'est très élevé à Paris?
Par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans des grandes capitales, à part des phénomènes dus à la météo parce qu'il fait très chaud, on ne peut pas dire qu'on ait une pollution excessive par rapport à la circulation. On a toujours un petit vent, tout ça, mais c'est pollué, ouais, évidemment. Mais il y a d'autres villes de France bien plus polluées. Je pense à Grenoble, qui est dans une vallée, hein, c'est entouré de montagnes. Et c'est sûrement une des villes les plus polluées de France, et peut-être même d'Europe. Donc on n'est pas si mal loti, finalement, curieusement.
Oui, c'est vrai.
Ça va encore, à peu près.
Vous êtes un peu aux 80 quand on voit les prises de vue de la Tour Eiffel. On voit que tous les tours, tout le tour à 360 degrés, c'est quand même, il n'y a pas de montagne qui bouge. Vous n'êtes pas dans une cuvette.
Ouais, ça va, c'est assez dégagé. Bon, bien sûr, c'est pollué, bon. Toujours trop. Mais dans l'ensemble, on n'est pas si mal loti que ça pour une grande capitale.
C'est ça. Aux Jeux olympiques de Pékin, les enfants découvraient que le ciel était bleu.
Ouais, il paraît, c'est horrible.
Ouais, parce qu'ils ont arrêté les usines qui étaient au pourtour de la ville de Pékin, et le ciel est encore redevenu toujours couvert par des nuages de pollution. Ça, c'est un autre monde. Alors donc, on voit que le jardinier se choisit une bonne terre. Alors, la terre, c'est féminin, c'est la mère terre. Le soleil, c'est masculin. C'est le Dieu le Père. Hein. Il n'y aurait pas de vie sur terre s'il n'y avait pas le soleil, comme on dit. Donc, on voit qu'on entre à travers une notion de jardinage, des notions spirituelles, religieuses. On voit le Dieu le Père, Dieu la Mère. L'eau et l'air, ben, c'est des fluides. Ça pourrait être l'Esprit, Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Bon, ensuite, on fait le choix des semences. Alors là, c'est toute une histoire de choisir les bonnes semences. Il y a des semences OGM qui ont été modifiées génétiquement, artificiellement ou naturellement par des boutures. Mais alors, l'être humain sur Terre se retrouve à être quoi? On parle des sept races racines. Quand on regarde la théosophie de Elena Petrovna Blavatsky, elle nous explique que l'humanité a connu des étapes. Hein. On parle des hyperboréens, des lémuriens, des ariens. Il y aura d'autres races plus tard qui viendront. On n'est pas le dernier de l'arbre généalogique humain. Et ensuite, donc, on va commencer à faire pousser nos plantes à quel endroit? On met pas ça dehors au printemps très, très tôt. On veut les faire partir tôt avant qu'ils soient capables de pousser à l'extérieur. On les plante dans des pots à l'intérieur de la maison, sur le bord d'une fenêtre, pour qu'elles aient du soleil, etc. Mm-hmm. On s'en occupe très, très bien. D'autres iront jusqu'à se créer une serre pour faire débuter les pousses. Et la serre, c'est un peu l'histoire du paradis terrestre. À l'époque où Adam et Ève, les premiers humains, étaient comme dans une serre. Ils étaient nourris, logés, protégés.
Oui, c'est vrai. L'Éden, ils avaient tout à portée de main.
Oui, c'est ça. Alors, tu me vois aller, hein, Yves. C'est d'amener graduellement l'idée que nous sommes, nous, les humains, des petites plantes dans un jardin créé par des êtres comme le jardinier et d'une nature d'un niveau supérieur à la plante. Et ces êtres sont d'un niveau supérieur à l'être humain. Et ils nous observent, ils nous laissent grandir. Et un bonjour, ils vont nous sortir du paradis. Hein? Mmh. Ils nous sortent de la serre ou le pot. On va le sortir dehors sur la galerie, on va le transplanter même. Une transplantation exige toujours qu'on conserve le maximum de ce qui était déjà dans la serre. C'est-à-dire le même type de terre, même qualité, même éclairage. Avoir encore un endroit où il y aura du soleil, de l'eau et qui manquera de rien. Donc, si, un exemple, si, sur Terre, on parle d'un paradis terrestre qui était sur Terre, on parle de la région des Sumériens, là, entre le Tigre et l'Euphrate, et puis peut-être, on comprend là, que c'est dans la région de Bagdad, pourquoi pas. Et si on a été transplanté d'une autre planète vers la planète Terre, c'est ce qui voudrait dire que l'autre planète sur laquelle on était originaire, on était d'origine d'une planète très semblable à la planète Terre. Sans ça, le transfert nous créerait un choc comme une plante qu'on va transplanter dans une terre. S'il est poussé dans une terre argileuse, puis qu'on s'en va le mettre dans une terre sablonneuse à l'extérieur, pouf,
ça fonctionnera pas.
Donc, on doit choisir une terre semblable à celle de notre origine. Ensuite, quand on la transplante, ben là, on va la laisser vivre aux intempéries. Hein? Il va gagner son pain à la sueur de son front, il va enfanter dans la douleur. La pauvre plante qui est abandonnée, ben, elle n'est pas vraiment abandonnée, mais elle doit se débrouiller dans la nature avec les contingences de la météo. Là. Alors que quand il était dans une serre ou dans le pot sur le bord de la fenêtre, on contrôlait parfaitement son éclairage, son humidité, et tout était sous contrôle-là dehors. Débrouille-toi. Ouais. Il faut grandir en pleine terre. Arrivent les faux prophètes. Alors, les faux prophètes, je les compare à ceux qui nous arrivent avec les engrais chimiques.
D'accord.
On dit, ça te prend du Roundup. Le Roundup, qui est un produit chimique qui élimine les insectes. Ben oui, mais éliminer les insectes, c'est ridicule puisque ce sont les pollinisateurs. Ce sont ceux qu'on a absolument besoin pour qu'il y ait un transfert de la vitalité et c'est eux qui provoquent souvent les relations sexuelles, c'est les entremetteurs, là, les pimps. Mais ces insectes-là vont aider à la pollinisation et puis vont permettre aux plantes de d'avoir une grande vitalité et se reproduire. Il y a aussi ce qu'on appelle le compagnonnage. Je sais pas si tu connaissais le principe compagnonnage, on met des...
Un novice et un expérimenté, un compagnonnage, c'est ça?
Ça, c'est bon. Dans la société humaine, c'est exactement le terme qu'on utilise. On parle des compagnons. Il y a différentes guildes de compagnons. Justement, en Europe, vous avez développé beaucoup depuis le Moyen-Âge cette technique. D'ailleurs, ce qu'on appelle le Tour de France aujourd'hui, qui se fait en bicyclette, ça avait débuté par le Tour de France des compagnons.
C'est vrai.
Oui, tu connaissais, hein? Alors là, c'est ça, ça fait partie de la culture française. Mm-hmm. Ici au Québec, on n'est pas habitué à ça, mais en étudiant les dossiers, je me rends compte que on est les exilés de la France, là, et on regarde la mère patrie chez vous comme la mère. T'sais? Et puis dans toute adversité, les enfants, les gens, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on va crier à part de crier « Oh mon Dieu! » On va crier « Maman! » Alors, on a un certain respect pour notre mère et on se rend compte à quel point vous nous avez influencé. On est maintenant avec le système, on appelle ça les Celsius. Avant, on avait le Fahrenheit. Mm. On revient à des données qui ressemblent. On a la télévision internationale de France maintenant ici au Québec et on regarde et on écoute Bob. Parce que vous êtes vraiment à la fine pointe maintenant là, avec l'émission de Bob. On retrouve tous les sujets que moi j'abordais depuis 40 ans. C'est la raison pour laquelle l'an prochain, c'est probablement la dernière année de l'ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Écoute, je l'ai dit à Bob quand il est venu avec Mathieu, tu te souviens Mathieu, on est allé au restaurant. Et puis je disais à Bob, bonjour, je te transférerai tous mes abonnés chez Bob. Parce que en effet, le travail que vous faites est magistral. Et je tiens à le mentionner au passage avec Yves, parce que c'est un peu la couleur de mon travail depuis 40 ans. Et maintenant, je me dis, avec la technologie avancée, l'Internet, c'est la communication internationale instantanée. Et la France, il faut que vous demeuriez le phare, la lumière qui part de Paris, là, comme on dit souvent. La ville lumière,
c'est ville lumière, oui. Bah, c'est vrai que tu étais un précurseur il y a 40 ans. C'est vrai que on est quand même dans le pays de Descartes, donc c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'en étant précurseur dans un pays peut-être plus ouvert à la nouveauté, hein, même avec cette culture française, bah, écoute, si on a créé des liens et des ponts avec toi, et effectivement, si on peut faire perdurer tout le jardin que tu as défriché, si on peut y faire pousser d'encore plus belles fleurs que ce que tu as mis, bah, y a pas de souci, on y va. Hein, puisqu'on est dans le jardin, tu vois, je prends cette image.
Oui, exactement. C'est ça, Yves. Et puis, je le vois comme ça. Je sais pas toi-même, est-ce que toi, tu en as un jardin? Est-ce que tu as des fleurs? Est-ce que tu as des plantes dans ta maison?
Alors, moi, j'ai une maison à l'île de Léron, donc il y a un jardin. Alors, je m'en occupe pas, c'est ma chérie qui s'en occupe. Moi, je l'assiste, tu vois, je fais plutôt le bricolage, le gros truc, couper des arbres, tout ça. Mais elle, pour elle, c'est sa méditation, tu vois. Quand elle jardine, elle, c'est comme si elle méditait, en même temps, elle fait du sport parce que c'est fatigant. Et tu vois ce que tu disais, elle s'acharne depuis 5-6 ans à faire pousser des fleurs et des arbres hautes qui ne sont pas adaptés, c'est-à-dire qu'elle se renseigne pas trop de ce qui pousse à côté, parce que c'est à l'île de Léron, donc c'est très sablonneux. Et je lui dis, tu sais, si tu mets juste des fleurs, un végétal qui est adapté à l'île de Léron au bon endroit, t'auras un beau jardin. C'est pas la peine d'aller à contre-courant de la nature de cette île de Léron. Elle a fait ça pendant 4-5 ans, ça a été un fiasco, tout mourait. Et là, elle commence à respecter l'endroit et bah, tout pousse, tout fonctionne. Et voilà. Donc ça rejoint ce que tu disais, quoi.
Oui, effectivement. Et nous, aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle la technique de permaculture.
Alors, avant de parler de la permaculture, je te propose de faire une petite pause. On va parler de trois choses que l'on propose sur BTLV et on repart dans la permaculture, d'accord ?
Parfait.
À tout de suite, Richard.
Le mystère et l'inexpliqué sont ses terrains de jeu depuis 40 ans. Tous les mois, Richard Glenn est sur BTLV.
Ouais, et c'est un vrai bonheur. Alors, cet été, cet hiver, ce printemps, cet automne, c'est tout le temps, hein, l'application, c'est où vous voulez, quand vous voulez. Là, c'est l'été, on dit c'est sur la plage, tout ça, mais sur les pistes d'hiver, ça marche aussi, d'accord ?
Dans quelques semaines, les vacances commencent. Pour ne rien louper de BTLV, téléchargez l'appli mobile gratuitement. Actu, radio, TV, emmenez la vérité avec vous partout, dans tout le monde. L'application BTLV est valable sur Apple et Android.
C'est comme dans quelques semaines, les vacances commencent. Ça va plus, il va falloir changer en fait.
C'est vrai.
Mais ça marche plus.
Ça y est, c'est les vacances.
Ça y est, c'est les vacances. Ou alors, on se dit que de toute façon, il y aura toujours dans quelques semaines des vacances.
Il y aura toujours
aussi.
Des vacances. Ah,
voilà.
Ça donc, fait rêver les vacances.
Bon, allez, on va les garder comme ça. Alors, ok, ça marche. Et si on parlait de bugarage bah.
Les 5 et 6 septembre prochains, btlv.fr vous propose un week-end ufologie à Bougarache. Deux jours pour un programme exceptionnel. Le samedi 5, conférence, table ronde, film sur le sujet OVNI et banquet géant. Le dimanche 6, partez à la découverte d'une montagne unique. Randonnée sur le mont Bougarache accompagné par des guides. Vivez un moment inoubliable. Et pour terminer, enregistrement de l'émission « Bob vous dit toute la vérité ». Infos et réservations sur btlv.fr, onglet événements.
Voilà, inscrivez-vous vite et rejoignez-nous pour ce merveilleux week-end.
Le mystère et l'inexpliqué sont ses terrains de jeu depuis 40 ans. Tous les mois, Richard Glenn est sur BTLV.
40 ans, Richard, tu te rends compte ? Hey, tu sais quoi ? Tu fais pas ton âge.
j'ai commencé à l'âge de 30 ans, très précisément,
non.
Et j'arrive à 70 ans.
Et tu sais ce qui est génial avec toi, c'est que tu as toujours gardé le même enthousiasme.
Oh, absolument.
Tu sais, parce que... Ouais, non, mais souvent, tu sais, quand on discute... Alors, des personnes qu'on n'a pas forcément à l'antenne parce qu'ils ne veulent plus intervenir, qui ont enquêté... j'ai quelques noms en tête, mais... qui ont enquêté toute leur vie sur les ovnis ou autres, et qui sont... aigri, je crois que c'est le terme, parce que bah ils n'ont pas, le monde n'a pas compris leurs travaux, machin, etc. Je leur dis mais c'est pas grave, partagez avec ceux qui sont aptes à écouter. Et ils veulent plus, il y a une aigreur et ils ont l'impression d'avoir raté leur vie comme ça. Alors j'essaie de leur parler, alors qu'ils sont âgés, tu vois, ils ont 70 ou 80 ans pour intervenir sur antenne et parfois faire partager leurs travaux parce qu'ils ont des tas de dossiers et ils veulent pas. Alors que toi, t'as toujours cette pétillance dans la voix.
Ah ben effectivement, mais il y a deux raisons. La première, c'est que je suis tombé dans la potion magique très jeune, à 5 ans et demi. J'ai été mis en rapport avec le phénomène extraterrestre. Heureusement, j'étais gardé à la campagne très loin des grandes villes et avec ma tante qui avait perdu son mari à la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait rêvé d'avoir un enfant et elle m'avait comme presque adopté. Ma tante Yvonne, un peu comme Yvonne de Charles de Gaulle, sa Yvonne, ben moi j'avais ma tante Yvonne, puis à De Gaulle, sa femme, il l'appelait tante Yvonne aussi, c'est bon.
C'est vrai.
À la même époque.
Et à 5 ans et demi, t'as été confronté à un phénomène?
Oui, et ça, avec Bob, on s'en est parlé, j'ai l'intention pour clore en beauté ma carrière de 40 ans d'ésotérisme expérimental. L'an prochain, avec mon équipe, on va débarquer à Paris. Et avec Bob et Mathieu, et puis toi aussi, hein, sans doute, on va probablement organiser une ou deux rencontres avec le public intéressé à me rencontrer. Et je dévoilerai certaines choses seulement à ce moment-là, concernant mes expériences avec le phénomène extraterrestre qui m'a nourri toute ma vie et tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle, comme tu as l'air de le dire, j'ai gardé cet enthousiasme, ce plaisir de vivre, parce que envers et contre tous, on ne pourra jamais... me dire que ça n'existe pas, c'était des folies. Moi, je sais ce que j'ai vécu.
D'accord.
J'ai repris. Et j'ai rien à prouver. Je n'ai pas fait de religion ni de secte. Hein. Mon travail, et d'ailleurs, j'ai découvert la deuxième chose dont je voulais te dire, c'est que la première, oui, je suis tombé dans la potion magique très jeune. Et la deuxième, c'est que je suis un enseignant, un professeur. Hein. J'ai enseigné pendant 20 ans dans ma vie, dans les écoles publiques. Sur 40 années, j'en ai passé... j'avais déjà 15 ans de fait dans l'enseignement quand j'ai commencé mes émissions. J'ai débuté, moi, comme journaliste à l'âge de 19 ans.
D'accord.
Et puis après ça, 2 ans après, j'étais écœuré de la façon dont les médias manipulent l'information. Et j'ai donné ma démission au journal Le Droit d'Ottawa. Pour après ça, me lancer dans l'enseignement. Et de l'enseignement dans les écoles, ben, je suis devenu enseignant sur toute la province de Québec, par la télévision, les réseaux à travers toute la province de Québec. Et maintenant, c'est sur Internet. Donc, c'est mondial. Et puis,
d'accord.
Bob, ben, comme je dis, il est un peu mon fils spirituel sur cet aspect-là des choses, puisqu'il fait exactement l'aboutissement de ce que j'aurais pu faire, mais il y a 40 ans, il n'y avait pas d'Internet.
Il n'y a pas d'Internet, bien sûr.
Alors, c'était pénible d'avoir des invités, c'était pénible de déplacer les caméras, parce que les caméras n'étaient pas portables dans une creuse de main. Là.
Ah ouais, ça faisait 30 kilos à l'époque. Hein?
Exactement. Puis les spots, ça prenait beaucoup d'éclairage. Tu prends des témoins, puis tu t'en vas chez des gens. Il y a une jeune fille, elle a été mise enceinte par un extraterrestre. Bon, elle a accouché d'un bébé bien spécial. Alors, sa mère qui suivait mes émissions, dit « Monsieur Glenn, il faut que vous veniez la voir, c'est extraordinaire ce qui s'est produit. » Bon, alors j'arrive là, écoute, on arrive là, 4 personnes, on installe des spots, on installe tout. Ça dénature complètement là, le paysage là, de la maison, c'est pas ça. Là. Mm-hmm. Aujourd'hui, on peut arriver avec, on change pas d'éclairage, on change rien, on s'installe, mon caméraman peut partir la caméra en douche, personne ne voit rien, on reste dans le climat de l'intimité des témoins.
Ça, je suis d'accord. C'est très important ce que tu dis, effectivement. Quand on doit avoir un témoignage comme ça de quelqu'un qui doit se livrer, c'est-à-dire aller un petit peu plus loin que ce qu'il a dit, la mise en scène, et c'est pour ça que on dit souvent avec Bob, et on les connaît bien, ces médias, on y a passé 30 ans, et dans les journaux, souvent quand on a des témoignages de personnes sur des manifestations, des choses comme ça, le fait qu'il y ait une caméra qui soit mise en valeur devant tout le monde, c'est pas le même témoignage, c'est pas, il y a quelque chose qui change, on n'est pas du tout naturel et on transforme même ce que l'on pense. Et c'est vrai que quand on doit avoir des témoignages comme ça un petit peu intimes, quand on arrive avec le gros marnum, eh bien on dénature déjà le message parce que la personne elle-même ne pourra pas être 100% naturelle. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison, quand on arrive juste avec une caméra, on est discret, eh bien on a plus de vérité, on va dire.
Et puis j'avais un vieux truc que j'utilisais, mon fils le plus vieux, Stéphane, qui était souvent à placer la caméra lui-même, et comme il avait 12-13 ans, les gens ne pouvaient pas imaginer qu'il était en train d'installer la caméra. On l'installait parce que j'allais chercher toujours l'équipement le plus réduit possible, le plus petit, le plus compact. Et puis, mon Stéphane installait l'enregistreur à terre. Il le branchait dans une prise électrique, il branchait la caméra sur un trépied, puis il partait la caméra, puis il filmait.
Ouais.
Les gens ne pensaient pas qu'on était en train de filmer déjà. À un moment donné, au bout de 20 minutes, quand est-ce qu'on commence? Ben, vous savez, c'est terminé, on a déjà tout dit.
Ah, ça, c'est un bon plan, ça, ouais. Tu fais semblant de pas filmer, comme ça, les gens ne se mettent pas en situation et en mise en scène et parlent naturellement. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça.
Avec un jeune garçon qui filmait, les gens ne peuvent pas croire que c'était lui qui était. Parfaitement faire les choses, oui. Alors,
excellente idée. Alors, revenons un petit peu à notre jardin et nos extraterrestres, parce que on pourrait parler des.
Non, mais
on pourrait parler des heures.
Je suis en train de gagner lentement avec mes arguments pour te dire que oui, la Terre est sous contrôle. Ça, c'est très important. La Terre est sous contrôle.
Alors, on en est à la permaculture.
Oui, la permaculture, c'est un terme, permaculture, tout le monde a compris, hein, c'est la culture permanente.
Mm-hmm.
Et Masanobu Fukuoka, qui est un japonais, c'est lui qui a mis ça au monde là, de manière moderne, c'est la révolution d'un seul brin de paille. Il nous dit qu'il y a 4 principes en permaculture. Le premier, c'est de ne pas cultiver. Ça commence bien.
Ah ouais, c'est bien.
Ouais. La chose principale, surtout, c'est de ne pas labourer la terre au printemps. Ça, c'est l'horreur, de mettre les micro-organismes qui vivent sous la terre, qui ne doivent pas être mis à l'air libre.
Mmh.
Quand on tourne la terre, quand on dit d'ailleurs, les laboureurs tournent la terre. Ben oui, mais tu viens de renverser la nature elle-même. Elle place des êtres, des vers de terre, un exemple, ou des micro-organismes qui vivent à l'intérieur de la terre, ne doivent pas être à la lumière du jour. Ils vont être tués par les ultraviolets du soleil immédiatement. Tu tues ta terre à chaque fois que tu fais un labour et tu tournes la terre. Quand arrive l'automne, il ne faut pas racler la terre pour enlever toutes les feuilles ou les brindilles de foin ou d'herbe.
Mm-hmm.
Il faut en laisser sur le dessus de la terre pour maintenir comme une couverture quand l'hiver arrive. La gelée, le froid, la neige vont se placer au-dessus de la couverture qui est restée et qui va pourrir et qui va faire de l'humus et qui va permettre d'enrichir la terre de manière naturelle. Donc, le premier principe, c'est de ne pas cultiver. Ouais. Autrement dit, laissez donc la terre, la nature faire. Comme tu dis à ton épouse, là, à l'île de Léron, va pas chercher des plantes qui sont pas faites pour vivre ici. Laisse vivre les plantes qui sont là.
Ouais.
Si tu as besoin d'amener des plantes comme des légumes, ben tu demandes aux jardiniers de la région, qu'est-ce que vous faites pousser ici? Eux, ils savent par l'expérience.
Bien sûr, bien sûr.
Deuxième principe, surtout ne pas fertiliser avec des fertilisants chimiques. Ça, c'est la pire chose. Les gens vont dire, ah, ça prend de l'azote. Ah, ça prend du phosphore. Pas des fertilisants chimiques. Il existe dans la nature ce qu'il faut pour compenser la faiblesse d'un sol. Et une des choses étonnantes, c'est comme Rudolf Steiner l'avait dit dans sa biodynamique, la biodynamique de Rudolf Steiner, c'est de laisser les plantes vivre et elles vont elles-mêmes aller chercher dans l'air, dans l'oxygène, dans ce qui circule dans l'air, tout ce qu'il faut pour compenser le manque qu'il y a dans la terre. Et quand elles vont mourir et qu'elles vont se dessécher et qu'elles vont pourrir sur place, elles vont nourrir le sol de ce qui manquait dans le sol pour l'année suivante. Ça prend 3 ou 4 ans pour rétablir une planète. 3 ou 4 ans pour rétablir la nature de ce sol-là, pour que ce soit profitable pour les prochaines générations. Je fais toujours le parallèle avec le monde extraterrestre qui observe notre Terre et qui espère que l'humanité s'ouvrira les yeux à temps. C'est dans les exagérations comme actuellement Monsanto, hein, on les voit aller, là. Et puis le pétrole, et puis tous les produits dérivés du pétrole, bon, alors c'est du chimique en masse. On empoisonne notre planète, et à un moment donné, les gens se réveillent, ils disent, il y a des gens qui n'en mettent pas de fertilisants chimiques, ils ont des meilleurs résultats, et surtout s'ils suivent les principes de la permaculture. Troisième principe, ne pas désherber, ni mécaniquement, ni avec des herbicides, surtout pas avec des herbicides, l'agent orange et tout ça, là.
Ouais.
C'est les pires choses. Alors, ne pas désherber. Autrement dit, laisser pousser, même entre les plantes tomates et tout ça, laisser pousser la mauvaise herbe, car il n'y a jamais de mauvaise herbe. Tout ça a raison. Le quatrième principe, ben, de ne pas être dépendant des produits chimiques après ça pour non seulement les engrais, les fertilisants, mais on va mettre des herbes, on va mettre des insecticides, des choses terribles. Là. Moi, là, j'ai des rosiers fantastiques sur mon terrain.
Ouais.
Et jamais je n'ai utilisé d'insecticides. Sais-tu comment je procède? Tu vas dire, mais il est fou. Ben oui. Je prends un aspirateur.
Ouais.
Un aspirateur, on appelle ça ici au Québec là, des shop vac. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous.
Shop vac?
Oui, shop vac. Des vacuums de shop d'atelier.
D'accord, oui.
C'est rond, ça fait beaucoup de bruit. Il y a un tube de plastique. Et puis ça peut même aspirer l'eau.
Oui, ouais, d'accord.
Comment vous appelez ça chez vous?
Ben, un aspirateur.
Oui, mais c'est pas la même chose qu'un aspirateur de maison, là.
Je vois pas. C'est peut-être plus puissant ou ça peut marcher dans les deux sens, si tu veux, ou ça peut aspirer de l'eau
oui,
aussi.
Ça peut marcher dans les deux sens, effectivement. Quand on se sert du renvoi d'air, on peut pousser les feuilles mortes sur le terrazzo.
Ouais, ouais, d'accord. Alors c'est un soufflant aspirateur, ça fait les deux, ouais. D'accord.
Oui.
Alors j'ai pas de nom précis à ça, tu vois.
Ok. Alors ce que je fais, c'est que je me promène au-dessus de mes rosiers et avec un tube très petit. Plus fin, plus étroit, je vais chercher les insectes nuisibles. Et je laisse, grâce à ça, les fleurs n'ont jamais eu d'insecticides. Et tu devrais voir les abeilles qui viennent bourdonner, elles jouissent, elles se tordent de jouissance dans les fleurs quand elles vont les polliniser pour venir chercher le nectar. Parce qu'ils sentent qu'il n'y a absolument aucun insecticide sur les fleurs. Et ça, c'est tellement merveilleux d'avoir des êtres humains qui vont conserver leur nature, leur culture original. Ils ne sont pas piégés par l'informatique qui fait, comme on pourrait dire, une monoculture sur la planète. La permaculture, c'est laisser pousser des idées, laisser pousser les gens avec leur talent naturel.
Ouais.
Éviter de leur imposer dès l'âge de 5 ans, 6 ans, entrer à l'école, vous rentrez à telle heure, vous sortez à telle heure, vous écoutez telle chose, vous étudiez telle chose, et ça devient un nivellement, ce qu'on appelle une monoculture. Tout le monde doit penser pareil, tout le monde doit agir de la même façon.
Ah, c'est pas mal, ça, le parallèle, ouais. J'aime bien, ouais.
Ben oui, hein. Eh ben, c'est ça. Alors,
mais tu sais, par rapport à l'imagination et par rapport au développement de la créativité de l'imagination, et ça, on peut trouver cette information partout, dans la Silicon Valley, du côté de San Francisco, ceux qui ont créé les iPads, iPods, etc., pour leurs enfants, ont des écoles dans lesquelles il est interdit de faire entrer des iPads ou des iPhones ou des trucs comme ça. Pas de nouvelles technologies, au contraire, faut laisser l'imagination des enfants agir comme on le faisait avant, plutôt que de se faire imposer du texte et des images par des objets qu'ils ont eux-mêmes créés. Faut le savoir, ça.
Là, je ne savais pas.
Faut le savoir, quand même, c'est énorme.
C'est ça. Rudolf Steiner, pour revenir encore à ce grand penseur, il avait développé ce qu'on appelle les écoles Waldorf. Mm-hmm. Ça existe ici au Québec. Oui, il y en a partout en Europe aussi, des écoles Waldorf. C'est des endroits où les jeunes arrivent avec des projets que eux apportent le lundi. Ils ont la semaine pour développer leur projet. Ils se mettent en équipe si c'est nécessaire. Et puis, les professeurs sont là pour les guider, pour leur donner des pistes, pour les mais pas leur imposer, tu vas écouter ça, tu vas étudier ça. L'élève lui-même, un bonjour.
C'est génial, ça.
Il a besoin d'apprendre la mathématique pour être capable de faire son projet. Il a besoin d'apprendre à lire pour faire certains projets. Alors, les choses viennent naturellement au moment
où... Ah oui,
où
d'accord, Lise. Ah ouais, c'est bien ça. Pour ton projet, il faut lire par exemple ça. Tu sais pas lire, bon, faut apprendre à lire pour ça. Ah oui, c'est génial ça, effectivement.
Oui, c'est les principes de l'école Waldorf. Je donne des mots. Je sais que, comme je le disais tantôt, Gilles va faire le complément surprenant, va accompagner notre entretien présentement. Et les gens auront des liens qui leur permettront d'aller à la source, trouver plein de trucs. Je sais pas si Mathieu va placer, lorsqu'on peut lire là, ou voir le podcast, il va pouvoir placer l'adresse du complément surprenant.
Ouais, on va mettre un lien. On va mettre un lien, Richard.
Oui, ça serait bien, ça, Mathieu,
pour
permettre
sûr.
Aux gens d'aller voir tout le complément qui accompagne notre entretien. C'est ça, l'Internet, on va s'en servir à des fins.
Alors, je précise, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas bien compris, quand Richard dit Gilles Surprenant, c'est le nom. Il s'appelle Gilles Surprenant.
C'est surprenant, mais c'est ça.
Voilà, c'est surprenant et c'est son nom, voilà.
Ben oui, c'est pas pire que l'autre qui s'appelait Charles de Gaulle.
Ouais, c'est ça, ouais, exactement, de Gaulle, ça tombait bien, quoi, hein, comme quoi.
Ben okay, oui, même s'il y avait l'autre qui était le Mitterrand, hein, mais ça c'est autre chose.
Alors, il y avait 4 principes, on les a eus, et 3 codes d'éthique.
Exactement, le premier code d'éthique, c'est prendre soin de la terre. Deuxième, prendre soin des personnes, des êtres humains. Et troisième, prendre soin des limites. Alors, prendre soin de la terre, tout le monde a compris. C'est évident que si on pollue la terre ou sa terre où on veut faire la culture, où on l'a dévitalisé complètement, on l'a rendu chimique, puis ça devient un poison pour les plantes, c'est nocif. Deuxième, c'est prendre soin des personnes. Ben, c'est très important de garder les gens qui sont compétents à l'œuvre le plus longtemps possible. Ne pas mettre au rencard les vieux, les vieillards, les gens qui sont même infirmes. Mm-hmm. Des gens infirmes ou des gens qui ne peuvent pas bouger beaucoup, ou des gens qui sont aveugles, ils ont des aptitudes qu'ils ont développées en compensation. Quelqu'un qui est aveugle, il va avoir développé son olfactif beaucoup plus. Alors, il faut être capable de prendre soin des personnes avec leurs particularités et aller chercher toujours le côté positif possible, avantageux. Et prendre soin des limites. Ah ben là, oui, ça, c'est important maintenant avec l'écologie, on commence à le réaliser. L'écologie, c'est la science des conséquences. Hein? Si on prend alors les limites, c'est justement la surexploitation. Et puis, on faisait autrefois une période de jachère. Hein? On faisait deux terres et une terre en jachère.
Tous les 3 ans, on mettait la terre en jachère, exactement.
Oui, en jachère, ce qui voulait dire la laisser reposer pendant une année. C'est pas nécessaire. D'après Foucault, là, de la permaculture, non. On fait tout fonctionner, mais on n'épuise jamais l'idée de faire une jachère. C'est parce qu'on l'a épuisé. C'est un peu comme quand on prend des vacances l'été. On est épuisé parce qu'on a tellement travaillé. Ben oui, mais pourquoi t'es épuisé? Il n'aurait pas fallu t'ailles jusqu'à l'épuisement. Il faut que tu te maintiennes. Mais ici, il y a beaucoup de gens qui, l'été surtout, ils prennent des vacances seulement une journée de plus par semaine. Autrement dit, ils prennent le vendredi, samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, au lieu de prendre tout en 2 semaines.
Mm-hmm. Ouais, c'est pas mal. Mm-hmm.
Ben oui. Alors, ça s'étire sur 3 mois. C'est avantageux pour tout le monde. Et tout est un peu ralenti, mais dans le fond...
Ouais, parce qu'en France, tout est un peu arrêté au mois d'août.
Oui.
Alors que c'est mieux de ralentir un peu sur certaines périodes, mais d'être toujours présent. Et ça évite que les gens soient malheureux, tristes, stressés et trop fatigués, ouais. Ouais. Et qu'ils perdent le goût de ce qu'ils font, quoi.
Et il y a des embouteillages monstres sur les autoroutes, autant pour les vacances que pour le temps du travail. Alors que s'il y a des gens qui sont en vacances le lundi, mardi, puis d'autres c'est le mercredi, jeudi, d'autres c'est le jeudi, vendredi, et que le reste du temps de la semaine, ils reviennent travailler, ça diminue beaucoup le taux de véhicules automobiles sur les routes, sur les autoroutes, autant pour les vacances que pour le temps du travail. En tout cas, il y a beaucoup d'avantages à laisser vivre les gens, arrêter d'être en monoculture, mono manière de penser, mono tout. Alors, c'est important tout ça. Alors, après la permaculture, on arrive à faire le tour de son jardin, c'est-à-dire qu'on laisse pousser jusqu'à maturation. Et là, j'en arrive avec les fameux textes apocalyptiques. Là, tu te souviens sans doute des textes qui disaient « À la fin des temps, il y aura l'enlèvement des élus. »
Oui.
Et puis les autres vont être abandonnés dans la géhenne éternelle. Là. C'est-à-dire que si, un exemple, là, je répète qu'il s'agit de faire un parallèle entre le phénomène extraterrestre et le jardin, ben à la fin de la saison, on va faire le temps des moissons. Et quand on va couper la moisson, on va essayer de conserver que le bon grain et laisser tomber les mauvaises herbes à côté.
Séparer le grain de l'ivraie, oui, d'accord.
Mm-hmm. Exactement la formule qu'on trouve dans la Bible. Alors oui, c'est dit dans les textes religieux qui font référence à de la spiritualité d'une certaine manière, d'une certaine nature. Alors on se rend compte que notre jardin nous aura permis de réaliser ce qui se produit finalement sur la planète Terre depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Et l'être humain arrive à un moment où on se rend compte, comme on nous disait dans les textes, regardez lorsque les nuages s'accumulent à l'horizon, l'orage s'en vient. Lorsque le figuier donne ses fruits, c'est que l'automne est arrivé et l'hiver approche, il va faire froid. Il faut se préparer au moment de ce qu'on appelait l'enfantement dans les textes sacrés. Parce que l'être humain, l'humanité actuellement, n'est pas encore arrivé et parvenu au niveau de nos initiateurs des temps primordiaux. Mm-hmm. On est encore des petites plantes, on est encore des petits animaux qui survivent sur la surface de la Terre. Et graduellement, on va probablement faire le pont entre la science de la matière et la spiritualité du monde spirituel. Mm-hmm. Ce qu'on appelait chez les Grecs le nouménal et le phénoménal. Le phénoménal, le phénomène, c'est ce que les physiciens vont appeler les particules. Et le nouménal, le noumen, c'est avant le phénomène. C'est ce qui est, on pourrait dire, le compositeur. Avant qu'on entende la pièce musicale avec l'orchestre, il a fallu qu'un compositeur écrive la pièce sur des partitions.
Uh-huh. Ah, le nouménal, je ne connaissais pas ça, tiens. Nouménal, oui. Phénoménal. Ah, bien.
Oui, ça vient du grec noumen, puis phénomène. Et le phénomène, c'est le manifesté. Et le noumen, c'est le non-manifesté qui précède, qui est un peu comme le compositeur qui écrit sa pièce de musique sur des feuilles, des partitions, et il le distribue à l'orchestre. Et à un moment donné, on l'entend. Avant qu'on entende le Big Bang, avant que ça éclate dans la matière, dans la manifestation, dans le phénomène, il y avait le travail du noumen. Et c'est là qu'on en arrive à la notion de la physique quantique aujourd'hui dont nous parle Philippe Guillemin, c'est-à-dire l'information. Tout est information. Oui, tout est information dans le noos, comme diraient les Grecs, dans la partie invisible. Les gens qui s'assoient dans la salle pour assister au concert, l'orchestre s'installe, et là, c'est la cacophonie. Tu te souviens, les instruments pratiquent leur corde, pratiquent leur son, leur sonorité.
Voilà, quand ils s'accordent, avant que tout démarre, on a une cacophonie comme ça qui fait qu'on entend bien, quoi. Ouais.
C'est ça, le chaos.
Ouais.
Avant l'éclatement qu'on va appeler le cosmos. Alors, il y a le chaos qui nous amène au cosmos. Le cosmos, c'est organisé. Et ça, c'est notre monde. Notre monde manifesté. Et donc, la partie de l'information, tout est information. Bien sûr, tout est information. Chaque musicien de l'orchestre a sa partition devant lui sur le lutrin. Il va au signal de ce qu'on va appeler le Big Bang, le alpha, le moment du départ. Tac, 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 tac. La musique débute. Des fois, ça peut débuter très, très doucement. Quand on dit un Big Bang, en réalité, il n'y a pas eu de bang, hein, parce que c'était dans le rien, dans le vide total. Tout a débuté par un grand, grand, grand silence. Et graduellement, le bruit s'est fait entendre très lentement. Il a séparé d'abord la lumière des ténèbres. Les ténèbres étant le vide, et la lumière, c'est ce qui se manifeste, qui devient visible. Alors, la lumière des ténèbres, ça, c'était le premier moment de la création. Et on est rendu, je le disais au début, au septième jour, et le septième, et Dieu se reposa, dit-on. Mmh. Donc, le jardinier se repose, et il laisse pousser les choses, et à un moment donné, arrivera le moment de la récolte, il va faire un choix. Il va faire un choix pour plusieurs raisons. Probablement parce qu'il va se nourrir des légumes de son jardin, de son potager.
Ah, on va se faire bouffer, alors. Ça fait peur. Si on est ces légumes, ça fait peur.
Ben, écoute-moi bien, là, on entre dans un autre niveau. Si on se fait une autre entrevue, Yves, au mois d'août, et si c'est avec toi, j'aimerais ça que ce soit avec toi qu'on la fasse encore, puisqu'on va faire la suite de ce qu'on est en train de se dire.
D'accord.
C'est quoi? Quand on aime une chose, on veut l'absorber. Quand t'aimes une pomme, tu veux la manger.
Ah ouais, d'accord.
Et chez les Juifs, chez les Hébreux, en langue hébraïque, là, le mot aimer se dit yadoa. Yadoa, yad, c'est la main, une main. On a deux mains. On a une main droite et une main gauche. Une pour saisir ce que l'on aime et qu'on porte à sa bouche. Quand on est enfant, là, on le voit, les petits-enfants, ils prennent tout puis ils mettent ça à leur bouche tout de suite. Ils veulent l'absorber. Et de la main gauche, on peut donner. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes une pomme, tu lui donnes, je sais pas si tu vois le geste.
Oui, bien sûr.
Aller-retour, le yin-yang. Alors, on se parlera de ça la prochaine fois, Yves.
Eh bien, oui. Parce qu'on arrive au terme déjà de cette heure. Tu t'en comptes, Richard?
Ben oui, effectivement, c'est ça. Alors, j'ouvre la porte pour notre prochaine rencontre au mois d'août, si tu es d'accord.
OK.
On va aller dans cet aspect qui est beaucoup plus ésotérique. On va se parler de qui serait ces niveaux d'être qui composent la partition musicale qu'on entend un jour, qu'on est dans le manifesté, dans le phénoménal. Mais qui sont-ils, ces êtres? On va parler de ces êtres à différents niveaux, eux aussi. Et nous sommes à un niveau où on va être absorbés. On va être absorbé par cette spiritualité. On ne reviendra pas éternellement dans la matière, revivre encore le monde inférieur dans lequel nous sommes. On va accéder à des plans supérieurs et on va devenir un peu comme ces êtres, des extraterrestres qu'on appelle des aliens ou des exogènes, des entités exogènes, comme on dit.
Mm-hmm. Oui. Eh bien, écoute, je te propose de se retrouver dans la dernière semaine d'août. D'accord, comme ça au mois d'août on fera la suite, puisque là on est au 31 juillet, hop, allez, le mois prochain, donc dernière semaine d'août, on va se caler, on fait cette deuxième partie assez passionnante. J'aime bien quand tu déroules le fil comme ça de la pelote, on dit tiens, des fois, mais où veut-il en venir, puis paf, on a juste la résultante de toute la réflexion, c'est intéressant ça.
Et est-ce que tu acceptes un peu l'idée que la Terre serait comme un jardin pour des jardiniers cosmiques?
Écoute, le parallèle commence à... Ouais, à être intéressant, effectivement, l'idée de permaculture, de laisser pousser les gens sans les formater, sans leur mettre des adjuvants chimiques dans le cerveau, ouais, ça me plaît. Je dis toujours à mes enfants qu'on fait des études quand même, parce qu'on part pas. Je leur dis, écoutez, il y a deux voies, il y a la voie classique hein, qui est écrite parce que vous avez fait des études, et puis la voie exotique que vous pourrez prendre, d'ailleurs, pourquoi pas partir faire un tour du monde en bateau et puis revenir en disant bah tiens, c'est génial, je vais faire une machine qui va rajouter du sel dans la mer parce que j'ai trouvé que voilà, des voies exotiques qui sont la résultante de l'expérience, et j'aime bien cette idée d'amener quelque chose quoi de plus. Donc
c'est un peu ça. Yves, en te lisant le dernier mot écrit par Antoine de Saint-Exupéry, le créateur du Petit Prince.
Vas-y.
Si je suis descendu, c'est-à-dire il était pilote d'avion, hein, alors c'était à la Deuxième Guerre mondiale. Si je suis descendu, c'est-à-dire tué, et ce fut le cas.
Dans son P-38 Lightning.
Oui. Alors, si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante. Et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier.
Ouais, c'est dingue, hein, cette prémonition de cette termitière future. Il avait vraiment une vision visionnaire. C'était vraiment un visionnaire.
Et quand ta femme travaille dans son jardin, dans votre potager, elle médite, tu nous disais tantôt que c'était un peu comme un état de méditation. C'est excellent parce que quand tu es jardinier, tu t'occupes vraiment de tes plantes. À tous les jours, tu vas les regarder. Tu t'aperçois qu'il y a de la vie, alors que ça passe inaperçu à celui qui avance sur le trottoir et qui n'a pas le temps de regarder les plantes pousser. Mmh. On peut même aller jusqu'à entendre les plantes grandir, les voir grandir. Et je veux dire, pour elle, là, c'est un état de méditation qui se rapproche de l'état de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a, elle sait qu'elle a le pouvoir de vie et de mort sur tout ce qui est dans son jardin. Elle fait un choix elle-même judicieux, je l'espère, c'est sûr, pour aller chercher ce qui nuit, pour donner une chance à la plante d'avoir un peu plus de lumière en enlevant une feuille ou deux d'une plante qui est un peu plus grande juste à côté. Elle a droit de vie et de mort. Elle est un être suprême pour le jardin.
Ben écoute, c'est pas une extraterrestre, mais pour moi, c'est une terrestre extra.
Merveilleux.
Tu l'as aimé, celle-là?
Oui. Ah, bon, j'aime beaucoup. Ben oui.
Bon, Richard, on se retrouve fin août. Passe un bon été. Et puis, bah, très bientôt sur BTLV. Merci pour tout. Et puis, on fera ensemble la deuxième partie avec plaisir.
Bravo. Salutations à Mathieu.
Dac, salut Richard. Ciao.
Le mystère et l'inexpliqué sont ses terrains de jeu depuis 40 ans. Tous les mois, Richard Glenn est sur BTLV.